ce matin et nous allons, merci d'avoir prié et on prie encore les uns pour les autres, nous allons aller dans le livre des psaumes, le psaume 63, et vous allez voir que ce psaume correspond à un épisode de la vie de David, on va voir lequel, mais il correspondait aussi à une certaine météo qu'il vivait, qui ne nous est pas étrangère. Alors nous lisons dans le psaume 63, donc c'est un psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, les psaumes de David, les psaumes d'une manière générale, eh bien nous les apprécions. Et pourquoi ? Parce qu'ils décrivent eh bien, la vie intérieure eh bien, des croyants, la vie intérieure, de ce qui se passe dans le cœur, dans la vie eh bien, des croyants. Et en ce qui concerne eh bien, les psaumes de David, ils sont particulièrement intéressants parce que nous voyons l'état de l'âme de David en fonction de ce qu'il vit. Et je vous inviterai, lorsque vous lisez les psaumes de David, à lire également en parallèle le premier livre et le deuxième livre de Samuel, parce que vous avez des correspondances entre les épisodes historiques de ce qu'il vit et en même temps de ce qu'il vit à l'extérieur, les événements qui sont traversés par lui, mais également ce qu'il ressent, son sentiment, sa foi, son amour pour le Seigneur. Et nous voyons que dans ce texte, ce qui est primordial, c'est de voir l'état de l'âme de David. Dans la deuxième épître la troisième épître de Jean, on a l'habitude de le dire lorsqu'on se souhaite des vœux de bonne année. Jean dira : Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez ? L'état de notre âme, c'est quand même quelque chose de merveilleux. C'est vrai qu'on a besoin du repos du corps, les temps de vacances sont là, mais l'Écriture insiste quand même davantage, non pas sur l'état de notre corps, combien est-ce que tu arrives à faire de pompes, si tu es bien bronzé ou pas, mais d'abord l'état de ton âme. Et en guise d'introduction, je donne encore une autre référence, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, eh bien, il est dit ceci, c'est Paul qui s'inquiétait de la santé spirituelle, de la foi des Thessaloniciens, et pour tout cela, et pour cela il enverra Timothée pour prendre des nouvelles, et il reviendra avec de bonnes nouvelles. Il dira: mais en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et croyons que et nous allons le voir ensemble, un contexte d'épreuve, d'adversité, il ne faut pas ôter l'importance de ces choses, mais l'Écriture nous demande d'abord eh bien, de nous occuper de notre âme. Ici, David se trouvait dans le désert de Juda, et ce psaume, soit il a été écrit dans ce contexte-là, immédiat, ou plutôt eh bien, David, plus tard, eh bien, en se souvenant de ce qu'il avait vécu, l'a écrit. quoi qu'il en soit, il fait référence à une période où il était obligé de fuir devant Saül qui voulait atteindre sa vie, qui voulait le tuer. Et il a trouvé refuge dans cette bande de désert, 80 km de long à peu près, 20 km de large, à l'est de Jérusalem, au bord de la mer Morte, là où on a trouvé les fameux manuscrits de la mer Morte, voilà un désert particulièrement aride. Et c'est dans cette période de fuite que ce psaume a été composé. Et nous voyons que pour David, dans cette période de fuite, ce qui ressort, c'est le soin qu'il a apporté à son âme. Il était en danger, il était poursuivi, il était certainement en manque de certaines choses, l'eau, l'alimentation, etc. Mais dans ces moments-là, il parle de son âme. Et je voudrais peut-être, pour un frère, pour une sœur, je ne sais, ou un rappel pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation, et même, nous allons le voir ensemble, le désert que tu peux traverser, ce qu'il y a de primordial dans ta vie, c'est l'état de ton âme, c'est-à-dire l'état, ton état de santé spirituelle. Comment va ton âme? Est-ce qu'elle vibre au nom de Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours capable d'impacter ton cœur pour que tu puisses le louer et l'adorer? Vous avez remarqué qu'alors même que son âme n'est pas encore rassasiée, il commence à se réjouir. David, malgré le désert, eh bien, pourra dire ceci: je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il fait du Seigneur l'objet de ses pensées. Parfois, la chaleur, ça nous empêche de dormir. Hein. Ça ne vous arrive pas? Voilà. Hein. À quoi on pense? David pensait à son Seigneur. Alléluia. Et il dira ceci: mais je suis à l'abri, à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Car tu es mon secours. Alors, je voudrais vous parler de tout cela. De l'état de notre âme. Une âme qui a besoin d'être rassasiée. On va commencer par cela. Une âme qui s'est trouvée dans le désert. Une âme qui a eu soif. Et vous allez voir, et nous allons voir ensemble, qu'une âme qui a soif de voir autre chose, c'est une âme qui est en bonne santé. Peut-être que vous avez entendu parler dans ces jours-ci des préconisations que l'on donne. Il faut boire. Et on sait que les personnes qui perdent la soif, enfin le goût de boire, ce sont soit les tout-petits, soit les plus âgés, voyez, voilà, qui se déshydratent ou qui oublient. Et nous, on a besoin de dire: Seigneur, mais je crois, Seigneur, que tu peux encore intervenir dans ma vie. Alléluia. J'ai soif de toi. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Amen. Et puis nous verrons que c'est le point final, parce qu'il y a toute une éducation même de Dieu pour David. Dans ce désert, c'est qu'à la fin, il dira: mais mon âme est attachée à toi. C'est que, désert ou pas désert, Seigneur, je resterai attaché à toi. Alléluia. Et c'est le but de notre vie. Alléluia. Notre victoire, le point final de notre vie, c'est de pouvoir dire: j'ai gardé la foi. Alléluia. Je suis resté fidèle à mon Seigneur. Amen. Alors, le premier point que nous allons voir ensemble, et j'ai commencé par là, ça apparaît au verset 6 et au verset 8. Il nous est dit: mon âme sera rassasiée comme de mes crasses et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et David parle ici d'une âme qui est rassasiée. Et ça, c'est important, parce que ça nous montre le fonctionnement de notre âme. Notre âme, alors on est corps, âme et esprit. L'homme, c'est corps, âme et esprit. Le corps, il est poussière, il retournera à la poussière. L'esprit, nous avons un esprit qui nous permet d'être en communion avec Dieu, voyez, voilà. Et nous sommes des êtres spirituels. Et puis l'âme, c'est l'identité, c'est la personne, c'est la personnalité même d'une personne, voyez. Et c'est cette âme que Dieu entreprend de sauver, alléluia, à qui il donnera également un corps nouveau lorsqu'on sera dans le ciel, tout cela. Alors, bien sûr que dans le détail, c'est quand même assez mystérieux, parce que corps, âme et esprit, l'âme et l'esprit, notamment, voilà, où ça s'arrête l'un, où ça commence l'autre. Mais enfin, l'Écriture, eh bien, nous dit que Dieu sait toutes choses, puisqu'il est capable de séparer âme et esprit, jointures et moelles. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Mais voyons ici qu'il y a un fonctionnement inhérent à l'âme, c'est que l'âme, elle a besoin d'être rassasiée. Elle a été créée pour être satisfaite. Un homme dont l'âme, une femme dont l'âme, c'est-à-dire la vie intérieure, l'être spirituel, n'est pas rassasié, n'est pas satisfait, il ne peut pas être heureux. On peut manquer de certaines choses. Et on va le voir tout à l'heure. On peut passer dans des temps de désert. Le corps même peut être usé, peut prendre de l'âge, être fatigué. On peut avoir un travail qui est, excusez-moi, bof bof. C'est pas terrible, mais enfin, j'en ai besoin pour vivre. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et on peut s'en acclimater, on peut s'adapter à toutes ces choses. Mais lorsqu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, lorsque l'âme n'est pas rassasiée, même vous auriez le meilleur travail du monde, quand vous auriez le plus bel entourage, mais il y aura un malaise, il y aura un mal-être et vous ne sauriez être heureux. Et l'Écriture nous dit eh bien que cette âme, elle a besoin d'être comblée, elle a besoin d'être remplie, alléluia. Et nous savons celui qui est capable de remplir notre cœur, alléluia, de combler notre vie, amen, alléluia. Et nous connaissons eh bien celui eh bien qui dont la Bible nous dit eh bien que il est le pain de vie. Si tu manges eh bien de ce pain, tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Il est capable de remplir tous les aspects de ta vie. Eh bien c'est notre Seigneur Jésus, eh bien Dieu qui s'est fait homme. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que il y a vraiment une dimension particulière dans la personne du Seigneur. Il est capable de remplir tout ce qui est vide. Il est capable de remplir pleinement les aspirations d'un homme, d'une femme, d'un adolescent, d'un jeune, d'un enfant. Il est capable eh bien, de te satisfaire complètement. C'est dans l'Épître aux Colossiens, dans laquelle il nous est dit au chapitre 2 et au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Alléluia. Et dans l'Écriture, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 22, il nous est dit ceci, et je le lis pour vous, il nous est dit eh bien, de Jésus, donc Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur, et donc le Père a tout mis sous les pieds du Fils, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et donc l'Église possède ce témoignage, nous avons tout pleinement en Jésus, alléluia, amen. J'ai un avenir dans le Seigneur. Bien sûr, j'avais un passé pas glorieux, mais Seigneur, tu l'as effacé, alléluia. Ton sang m'a lavé, m'a purifié. Mais comment tu peux être sûr de ton salut? Mais parce qu'il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli pour me sauver. Il ne manque rien. J'ai tout en lui, alléluia. Il a tout accompli, donc j'ai tout pleinement en lui. Et l'Écriture nous dit même que tout a été créé par lui, alléluia, sa bonté est sans pareil, puisque, vous connaissez cette parabole cette parabole des invités, où le roi invite des invités pour les noces de son fils, et il dit, venez, car tout est prêt, tout est déjà prêt, alléluia, amen. Quand on a rencontré le Seigneur, on n'est pas venu à lui, et on a vu que tout était prêt. Le Seigneur n'était pas en train de... Attends, il manque deux ou trois choses pour toi. Il faut vraiment que, voilà, je termine encore deux, trois... Non. Tout est accompli. Alléluia en Jésus. Amen. Nous avons été sauvés et nous avons tout pleinement en lui. Et l'Écriture, eh bien, nous dit également que nous avons tout reçu, eh bien, par son Esprit. Son Saint-Esprit, eh bien, veut nous remplir, veut, eh bien, nous communiquer, eh bien, tout ce qui est tout ce qui est en lui. Alors, je vais vous lire ce texte qui est merveilleux, parce que nous, on est des pentecôtistes, on croit dans l'action du Saint-Esprit, et voici ce qui nous est dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 26. Il nous est dit ceci, alors je vous le lis, 14, 26, et il est écrit ceci, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que je vous ai dit. Et nous voulons dire, Seigneur, merci, parce que eh bien, ton esprit agit en nous, nous renouvelle. Nous pourrions parler également du baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est vrai que c'est extraordinaire de marcher avec le Maître, avec le Seigneur, et de savoir que, eh bien, il remplit nos cœurs, il remplit nos vies. Je ne sais pas si dans ces moments de peut-être de congé pour certains d'entre vous, eh bien, vous ne vous attardez pas davantage à prier le Seigneur, à être rempli du Saint-Esprit, à parler en langue, à avoir des moments de qualité devant le Maître, à lire la parole de Dieu. Mais faites-le et vous serez débordant de joie. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, va bénir ces moments de rencontrer, et votre âme va être rassasiée. Alléluia. Et tout cela provient de la nature même du Seigneur. Dieu s'est fait homme. À la croix, il nous a pardonné pour que nous puissions entrer dans sa présence et que nous devenions le temple du Saint-Esprit, et nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est glorieux. Et David pourra dire, ben, mon âme sera rassasiée, et je prie afin que, eh bien, chacun d'entre nous, eh bien, puissions expérimenter cette plénitude en disant, Seigneur, je suis satisfait, j'ai tout en toi, Seigneur. Alléluia. Je fais une petite remarque quand même pour qu'on se souvienne d'une chose. C'est une plénitude qui doit constamment être renouvelée. On ne peut pas vivre sur les restes d'hier. D'ailleurs, il n'y en a plus. C'est comme l'oxygène. Voilà. J'ai besoin sans arrêt d'avoir cette respiration spirituelle, de dépendre de mon Seigneur. Alléluia. Alors, voilà, nous sommes là dans le fait que notre âme a besoin d'être rassasiée. Elle ne peut être rassasiée qu'en Jésus. C'est lui qui peut simplement remplir nos cœurs, alléluia, et nous bénissons le Seigneur pour cette révélation. Mais nous voyons ici une âme qui est dans le désert, et on pourrait se poser la question, eh bien, pourquoi David passe-t-il par ce désert alors que c'est un milieu qui est difficile, qui est dangereux, et puis surtout le contexte dans lequel il traverse ce désert, il est poursuivi, un homme en veut à sa vie. Alors un désert, tout d'abord, eh bien, c'est un lieu qui est vide de tout secours. Et surtout à cet endroit-là, qui est vide de secours, qui est vide de ressources, la vie n'est pas là. Et on peut traverser également des déserts au sens figuré. Voilà, désert affectif, c'est-à-dire qu'on aurait besoin d'affection et on n'en a pas. Désert intellectuel, on aimerait bien connaître certaines choses, avancer, et puis voilà. On se sent sans intelligence. Il existe toutes sortes de déserts. Certains d'entre nous avons vécu le chômage. C'est comme un désert, hein, le chômage. Hein. Oui. La solitude, la dépression, le burn-out, une maladie, ça peut nous isoler. Voilà. Donc c'est un temps comme ça. Et on se dit, mais où se trouve le secours et comment sortir de ce désert, et ce sont des questions légitimes. Et vous avez remarqué que dans ce texte-là, la Bible nous dit que David est dans le désert et Dieu ne lui dit pas qu'il va le sortir de ce désert. Et si vous connaissez l'Écriture même, vous verrez que Dieu va s'employer à laisser David dans ce désert. Même Dieu s'est employé à ôter dans la vie de David tous les soutiens qu'il avait. Il avait un roi qu'il servait, ce roi devient son pire ennemi, le roi Saül. Sous cette pression, il est obligé de quitter son foyer, donc son épouse. Il est également pris d'un vertige, il a peur pour sa vie, alors il se réfugie chez les Philistins, alors qu'il est ennemi des Philistins, et là, il se fait passer pour un insensé. Souvenez de ce texte-là ? Il bave, etc. Et puis alors le roi le rejette en disant, ben, « J'ai pas besoin d'un insensé de plus dans mon royaume. Allez, mettez-le dehors. » Voilà. Et donc, il comprend que même sa propre intelligence le trahit. Voilà. Et puis, le prophète Samuel, celui qui l'a oint pour qu'il devienne le roi, voilà. Et il n'est pas encore roi. Il vient à mourir. Alors, le seul refuge qu'il a, c'est de fuir. Et c'est dans le désert. Et ces temps, nous pouvons les vivre, et parfois même nous pouvons les revivre, comme si le Seigneur voulait faire une espèce de remise à niveau pour ne pas oublier une chose. Bien, c'est que malgré les bénédictions, malgré le passé, malgré les appels, notre secours et notre ressource, elle est dans le Seigneur. Et envers et malgré tout, eh bien, le désert, tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on n'est pas encore dans le ciel de gloire, on vit dans un désert qui est ce monde. Ce monde, ce n'est plus le jardin d'Éden, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est un monde brûlant, hein. Voilà, tellement brûlant que ça brûle. Même les voitures brûlent. Hein? Et on est loin d'un jardin. Et la réalité, et notre foi, elle côtoie la réalité. On ne va pas se dire, non, mais mon travail, mon ceci, mon cela, ça peut se passer bien, mais il peut y avoir aussi des contextes extrêmement difficiles. Et puis, d'une manière générale, l'état d'esprit, la mentalité eh bien, de ce monde est ainsi. Et puis aussi, je rappelle, eh bien, Dieu peut aussi utiliser des temps de désert pour qu'on manifeste ce que l'on a dans notre cœur. C'est comme un bilan qui se fait à l'égard de notre âme. Alors, on n'aime pas forcément les examens. Moi, je sais que quand j'en passais, je n'aimais pas. Mais peut-être que certains aiment passer des examens, des concours, etc. Enfin, ils sont rares. Mais Dieu peut nous faire passer par des temps de désert pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre âme ? Dans Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 2, voici ce que le Seigneur dira à son peuple d'Israël. Il lui dira, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Ah ben voilà. Mais là, c'est « Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. » Eh ben, c'est facile de dire, « Seigneur, je t'aime, et je te suis fidèle quand tout va bien. » Mais quand c'est plus compliqué, quand c'est le désert, ben c'est autre chose. Et le Seigneur continue. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et, j'aimerais même dire mais, et il t'a nourri de la manne afin que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, amen. Et le Seigneur est en train de dire, ces temps de désert sont là afin que tu éprouves eh bien, la bonté et le secours du Seigneur. Et que ton cœur puisse être changé et transformé pour que tu puisses apprendre à être dépendant du Seigneur. Et c'est vrai que quand on commence à marcher avec Dieu, mais parfois il y a des piqûres de rappel aussi, eh bien, quand on commence à marcher avec le Seigneur, ça a été mon cas, hein. Après la victoire, la délivrance, une période de désert. Pourquoi ? Afin de t'humilier, Emmanuel. Parce que ton cœur, il est orgueilleux. Quand on pleure, quand on est dans le désespoir, tu as crié vers moi, je t'ai secouru. Il a fallu que tu sois humilié quand même pour pleurer, pour crier. Et maintenant que tu es rétabli, ton cœur est de nouveau disposé à lever le menton. Il ne faut pas que ce soit comme ça, tu ne vas pas recommencer. Alors, tu vas passer par un temps de désert. Tu vas pleurer, peut-être tu vas avoir peur au début, mais tu vas apprendre que je suis avec toi tous les jours, et l'Écriture nous dit, jusqu'à la fin du monde. Oh, ça veut nous dire quand même que le monde aura une fin, mais que quand même le Seigneur, à la fin, il sera toujours là. Amen. Et on s'aperçoit également que, dans la Bible, hein, je prends la Bible, dans le désert, il s'est passé des belles choses quand même. Il y a des hommes qui ont habité dans le désert. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui habitait dans le désert, c'était Élie. Pendant un temps, on parle d'une dépression, mais il a rencontré quand même un ange dans le désert. Dieu l'a secouru dans le désert. Il a relevé dans le désert et il est sorti de son désert. Dans le désert, il y a un homme, et on pense que c'est vraiment le désert de Juda, qui a annoncé que d'ouvrir la voie du Seigneur, Jean-Baptiste, dans le désert. Il a annoncé la venue de Jésus. Alléluia. Et le début du ministère du Seigneur a commencé dans le désert, où là, il a été tenté par le diable, vous vous souvenez de cela ? Mais il a mis le diable en défaite. Alléluia ! Mais tout ça, ça nous parle. Ça veut dire que malgré les déserts que nous pouvons traverser, il y a une vie dans le désert, parce que ton Seigneur, c'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Alléluia ! Et quel que soit le désert, et le désert c'est aussi synonyme de mort, Jésus est la résurrection et la vie. Il met la vie dans le désert, alléluia. Et dans ce monde dans lequel nous sommes appelés à vivre, voulons dire, Seigneur, tu veux me faire connaître cette vie, peut-être pour quelqu'un dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle, dans son être intérieur, dans les projets, dans je ne sais quoi, mais dans ta vie tout entière, dans ta foi, le Seigneur veut faire passer comme un source, un fleuve d'eau vive dans ton désert, alléluia, et manifester la vie. J'ai noté deux références et je voudrais qu'on les tienne. C'est dans Ésaïe au chapitre 35 et au verset 1er. Ésaïe au chapitre 35 et au verset 1er, il nous est dit ceci. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Le désert est changé en jardin pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a certains textes où il nous est dit que le désert fleuriront, mais sur la terre d'Israël, ça s'est accompli littéralement, parce qu'il y a certains coins de désert en Israël qui sont verdissants. Voilà. Et je voudrais lire encore un autre texte avec vous, Ésaïe chapitre 43 et le verset 19. Vous êtes toujours là à mes côtés, hein ? Amen. Ésaïe chapitre 43 et le verset 19, il est dit ceci, tac tac. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Petite parenthèse quand même pour vous dire que quand Dieu fait une chose nouvelle, il l'annonce. Personne, enfin voilà, la méthode de Dieu, c'est avant que quelque chose ne se fasse, il l'annonce. Prophétie, même la venue de Jésus, le retour de Jésus est annoncé, etc. Le déluge a été annoncé. Personne ne peut dire ça vient de Dieu comme ça. Si ça vient de Dieu, Dieu l'a déjà annoncé. C'est le mathématicien, physicien Blaise Pascal, si vous aimez les mathématiques, voilà le calcul infinitésimal, etc., qui dira ceci. Une des grandes différences qu'il y a entre Jésus-Christ et Mahomet, c'est que l'un a été annoncé, l'autre pas. Jésus est annoncé. Bah, c'est mathématique. Et donc, voilà. Et il nous est dit ceci, donc, dans Ésaïe chapitre 43, et le verset 19, il nous est dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tout apprentissage a besoin parfois d'une remise à niveau pour ne pas oublier, et on sait que le Seigneur est capable de nous faire passer de nouveau par des temps de désert afin qu'on n'oublie pas que si on est ce que l'on est, c'est grâce à son secours et grâce à lui. Et comme le psalmiste le disait, il m'est bon d'être humilié. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, je suis la voie de tes commandements. Alléluia. Amen. Alors, l'âme a besoin d'être rassasiée. Si elle n'est pas rassasiée, on ne peut pas être heureux. Celui qui nous rassasie pleinement, c'est Jésus. L'âme, elle est dans le désert. Et David était dans le désert. Et David révèle néanmoins, malgré son affliction, malgré sa fuite, malgré le fait qu'il soit en danger de mort, il révèle une bonne santé spirituelle. Et je vous l'ai dit pourquoi. Il dit ceci, « Mon âme a soif de Dieu ». Je vous disais que les médecins, à l'heure actuelle, c'est mon troisième point, ça, hein, mon âme a soif de Dieu, pour ceux qui prennent des notes. Les médecins nous disent qu'avoir soif, c'est un signe de bonne santé. On se rend compte de son état de déshydratation, et le danger, c'est quand on ne s'en rend pas compte, les enfants ne s'en rendent pas compte, ou quand on est un peu plus âgé, on perd cette notion et ce goût de soif, et c'est là où on se trouve en danger. Et David, lui, dira ceci, mais moi, mon âme a soif de Dieu, c'est-à-dire qu'on a besoin de réaliser et de comprendre que notre bonne santé spirituelle n'a rien à voir avec les épreuves que nous traversons. Ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve, qu'elle soit la maladie, qu'elle soit le chômage, qu'elle soit quel sentiment de découragement ou de fatigue, que devant le Seigneur, eh bien, tu es en mauvaise santé spirituelle. Parce que David s'est trouvé dans cette situation-là, mais néanmoins, il avait une bonne santé spirituelle, puisqu'il le dit, et je le répète encore, eh bien, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride. Je sais que mon salut va venir de lui. Même si je suis dans le désert, même si c'est compliqué, même si ça ne va pas, même si j'ai des temps de découragement et de fatigue, mais j'ai soif de voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir encore ta main agir dans ma vie. Alléluia. Et je crois que tu peux agir. Amen. Amen. Et je voudrais vraiment vous donner soif ce matin. Soif du Seigneur. Soif de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Soif de voir Jésus vous guérir. Soif de voir Jésus faire un miracle dans votre vie. Alléluia. Soif de voir Jésus intervenir. J'ai soif de te voir agir. Et parce que j'ai soif, je te cherche. Il y a des promesses. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Tu connais le chemin, la vérité et la vie. Mais cherche dans cette direction. Alléluia. Et tu trouveras. Amen. Et il nous est dit ceci. Donc je te cherche dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et il nous est dit ceci. Alors je te contemple. Mais je t'ai trouvé, Seigneur. Parce que j'ai eu soif de toi, parce que je me suis appliqué à te rechercher de tout mon cœur. Alors Seigneur, eh bien, je te contemple, je te trouve dans ton sanctuaire. Vous savez, ce sanctuaire dans la vie de David, c'est quelque chose d'important. À l'époque, c'était le tabernacle. Le premier réflexe que David va avoir lorsqu'il va être obligé de fuir devant Saül, avec les hommes qui étaient avec lui, c'est d'aller à Silo, où il y avait le souverain sacrificateur Abiathar, où se trouvait l'arche de l'Alliance à ce moment-là, et le tabernacle. Son refuge, c'est là. Dans le psaume 27, il dit « Je demande une seule chose, je voudrais toute ma vie habiter eh bien, sous sa tente, dans sa maison. » Même l'oiseau y trouve un nid, en disant « Mais c'est là que je veux demeurer, c'est là que je suis en sécurité, et si une armée se lève contre moi, je n'aurai aucune crainte. » Parce que Seigneur, tu es celui qui veille sur moi. Alléluia. Et peut-être avons-nous besoin de dire, Seigneur, élève, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, tu es plus grand que tous les dangers. Tu es plus fort que tous les ennemis. Tu as la solution dans toutes les situations que je peux traverser. Et moi, Seigneur, j'ai accès à ta présence. Moi, je peux entrer dans ta présence, dans ton sanctuaire. Et j'utilise volontairement des mots qui appartiennent à l'ancienne alliance pour nous rappeler bien ce qu'on ne devrait jamais oublier, c'est que nous avons une libre entrée auprès du Seigneur. Le voile a été déchiré. Alléluia. Est-ce que tu rentres dans ces moments-là? Est-ce que c'est ton ressourcement? Bien sûr, on doit vaquer à toutes sortes d'occupations dans la journée, c'est normal, on est responsable, on est raisonnable. Mais il y a des moments quand même dans la journée où on doit se tenir devant le Seigneur, où on doit vraiment avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur, où le Seigneur nous parle, où le Seigneur, sorti de toute circonstance extérieure, réjouit notre âme, parce qu'il est là. Amen. Vous savez, c'était tellement vrai au moment du ministère terrestre du Seigneur, qu'il y a des gens avec hommes, femmes et enfants qui étaient capables de rester 3 jours buvant, se nourrissant des paroles du Seigneur. C'est le Seigneur qui était obligé de les renvoyer. Vous voyez ? Mais ils oubliaient tout dans la présence du Seigneur. Alléluia ! Combien on a besoin d'être renouvelé, d'être rempli, d'être rassasié. Et qu'est-ce qu'il va voir, David ? Parce que c'est documenté. Vous savez ? Quand on parle du Seigneur, on doit savoir de quoi on parle. Et la Bible est précise. Et il voit 3 choses. Il voit sa puissance, il voit sa gloire et il voit sa bonté. Regardez, c'est écrit dans, au verset 3 et 4. « Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Sa puissance, c'est que tout lui est possible. « Seigneur, moi je suis tout petit, je suis dans mon désert, je te contemple. Oh, Seigneur, mais tu es ressuscité, tu es vainqueur. » On a besoin de chanter les louanges du Seigneur. On a besoin de glorifier le beau nom de Jésus. Tu as besoin de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À Satan la défaite. Depuis le jardin d'Éden, Dieu lui a ordonné de mordre la poussière. Tu mangeras la poussière. C'est-à-dire, quelqu'un qui mord la poussière. Mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. À toi la puissance. Et la gloire. La gloire, ça veut dire, mais tu te révèles, tu te manifestes. Et c'est ce que tu veux faire. Cette puissance, tu ne veux pas la laisser loin de moi, mais tu veux qu'elle m'atteigne pour me secourir, Seigneur. Et il est donné ce verset merveilleux, peut-être que qui vous a déjà touché, le verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Alors j'ai cherché la traduction, pas la traduction, la traduction de ce mot en hébreu, mais il est traduit sous les termes suivants, la grâce, la miséricorde, la bonté, la fidélité. Et c'est-à-dire que pour David, oui Seigneur, tu es capable de venir à mon aide, tu veux faire resplendir ta gloire, mais il y a quelque chose encore de merveilleux, ta bonté vaut mieux que la vie. La vie, elle me réserve des choses compliquées, oui ou non, des choses difficiles, parfois des larmes, des temps de désert, mais toi Seigneur, ta bonté, elle vaut mieux que la vie. Si j'avais que pour exister, pour vivre sur cette terre, pour trouver des raisons de vivre, on peut en arriver là des fois, hein, trouver une raison de vivre sur cette terre. Peut-être qu'on se dirait, mais il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais David dit, mais ta bonté, Seigneur, elle vaut mieux que la vie, alléluia. Mais j'ai trouvé une raison de vivre avec toi, de me battre, d'affronter chaque jour le désert. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi, alléluia. Et tes plans, eh bien, vont s'accomplir. Et ton amour est merveilleux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et mes frères, mes sœurs, combien c'est glorieux. Et au lieu d'être dans l'abattement, eh bien, vous lirez ceci, eh bien, dira avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, et mon âme est attachée à toi. Car tu es mon secours. Et donc, nous voyons un homme, qui a eu soif, de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de dire, Seigneur, moi aussi, je te contemple. Je vois ta puissance, je vois ta gloire, je vois ta bonté, c'est-à-dire les motivations qui sont en toi à mon égard. Tu m'aimes, je ne suis pas séparé de toi. Alors Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de voir ta gloire. Amen. Je voudrais vraiment que dans cette matinée, certains puissent dire, mais Seigneur, j'ai soif de voir ta gloire dans ma vie, j'ai soif de te voir intervenir. Peut-être dans votre famille, dans votre travail, je ne sais, peut-être même dans votre vie spirituelle, mais c'est ce qu'on devrait éprouver au contact de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions éprouver autour de nous. Vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vais vous envoyer pour que le monde sache que je règne sur toutes choses. Et lorsqu'on voit la vie de ces premiers chrétiens, je pense à l'apôtre Paul, j'ai pris un texte comme Acte 15, 36, il est avec Barnabas alors qu'ils ont fait une mission, alors qu'il y a eu des problèmes doctrinaux, et bon, ils les ont résolus, etc., à Jérusalem. Il dit, mais et si on retournait voir les frères et soeurs, les églises, ouais, voilà, il nous a dit, retournons visiter les frères. On aurait pu dire, mais t'as pas envie de te reposer Non, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir ce que le Seigneur va faire encore pour ces églises. Je veux voir dans quel état elles sont. Je veux voir encore si les églises grandissent, si l'œuvre de Dieu progresse. Je veux voir l'œuvre de Dieu avancer. Alléluia. Et je voudrais dire, ce matin, ne reste pas dans un état, j'allais dire, où tu n'es pas satisfait, tu n'es pas rassasié. Parce que quand on est en Jésus-Christ, on n'est pas dans cet état-là. On n'est pas dans cet état-là. Un jour, le Seigneur aura des mots extrêmement sévères à l'endroit de ses disciples. « Jusqu'à quand vous supporterai-je, serai-je avec vous ?» Vous vous souvenez ? C'est quand il y a un papa qui est venu avec son fils qui était possédé d'un démon. Tantôt, il le jetait dans le feu, tantôt dans l'eau pour le faire mourir. Et il dira « Mais je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Quoi ? On est venu chercher du secours auprès de moi. On vient vers vous parce qu'on sait que vous êtes mes disciples. Et il n'y a rien qui se passe. Alors je pense qu'il y a un mécontentement général de la part du Seigneur. Elle est garde du monsieur qui va avouer d'ailleurs son incrédulité. Des disciples qui, à mon sens, ils ont dû faire deux ou trois pas de côté. Il dit « Amenez-le-moi. Si tu peux quelque chose. » Voilà. Comment si tu peux ? Mais tout est possible à celui qui croit. Et bam, en une seconde, une parole, l'affaire est résolue devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire ce matin, ne laisse pas passer ces moments que le Seigneur ne t'ait béni. Alléluia. Le Seigneur est celui qui pardonne, il est celui qui guérit, il est celui qui a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Afin que tu saches et que tu sois convaincu que tu as tout pleinement en lui, que tu n'ailles pas chercher ailleurs ce que lui seul peut te donner. Alléluia. Et que tu puisses dire jusqu'au bout, mais Seigneur, mon âme, elle est attachée à toi. Je termine mon point final. Parce que c'est ça le but. Le but du désert, c'est de te montrer que le monde, voilà comment il est. Le but du désert, c'est de te montrer, voilà aussi comment tu es dans le désert. Tu es quelqu'un de fragile, de faible, tu ne peux pas survivre. Mais moi, je suis avec toi pour te délivrer. Et qu'au bout du bout, tu ne sois plus séduit par toutes sortes de pensées, de fausses doctrines ou je ne sais quoi, mais que tu puisses dire, mais moi, je resterai attaché pour toujours à mon Sauveur et à mon Seigneur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et voulons dire, Seigneur, eh bien, c'est ce que je veux également, être comme de ces hommes, comme Paul, qui pourra dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Je me souviens d'avoir accompagné un frère qui n'est plus au milieu de nous et me poser des questions, mais comment se fait-il, Seigneur, que tu permets qu'il y ait des épreuves difficiles, même jusqu'au bout de sa vie ? Eh bien, j'ai compris qu'il y avait vraiment là encore la méthode du Seigneur, c'est qu'au travers de ces épreuves, il puisse toujours chercher le secours dans son Seigneur et qu'il tienne bon quant à la foi. Alléluia ! Amen ! Et nous voulons dire, Seigneur, merci. Merci, même, il y avait un vieux chant, je ne sais pas si... Enfin, moi, j'aime pas trop le chanter parce que... Merci pour les épreuves de la vie. Vous le connaissez ce chant ? Vous qui êtes dans les DPS là, vous le connaissez ? Il y a des chants, ils sont beaux, hein ? Ils sont merveilleux, hein ? Mais voilà, mais on veut le dire quand même. Merci Seigneur, parce qu'avant je m'humiliais, je m'enorgueillissais. Maintenant, et David dira ceci, et je termine par là. Ta droite me soutient, Seigneur. Ta droite me soutient. Je voudrais te dire ceci, ne doute pas. La droite du Seigneur te soutiendra toujours. Il te rassasiera, il te fortifiera, afin que tu sortes de ce désert, et même que ce désert devienne un jardin, alléluia, par sa grâce, parce qu'il t'accompagne. Amen. Mais en ce qui te concerne, et c'est le but du message de ce matin, que ton âme, si besoin était, retrouve une bonne santé en disant, j'ai soif, Seigneur. Je veux voir ta gloire, je veux voir la solution, je veux voir le secours. On l'a chanté tout à l'heure, mon secours est en toi. Amen. Amen. Vous l'avez bien compris ensemble ? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés, Seigneur, sous ton regard. Et je veux te remercier parce que tu nous as bénis, tu nous as conduits dans la louange, Seigneur, dans la prédication. Seigneur, je te loue personnellement parce que, Seigneur, les forces, c'est toi qui les donnes. Alléluia. Mais Seigneur, je veux te prier afin que, Seigneur, notre âme soit en bonne santé, que nous ayons une bonne santé spirituelle. Et nous avons compris que cette bonne santé spirituelle, elle ne dépend pas des circonstances que nous traversons, mais de notre attitude de foi. Et de dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Je crois encore que tu peux agir. Je crois encore que tu peux changer le cours des choses. Je crois encore que tu es capable d'apporter la solution. Et peut-être pour quelqu'un, c'est dans son foyer, les rapports avec son époux, son épouse, peut-être près des enfants. Seigneur connaît toutes choses. et voulons dire, Seigneur, j'ai soif de toi, je veux voir encore ta gloire. Peut-être c'est quelqu'un qui se dit, mais Seigneur, je me sens sec spirituellement. Mais Seigneur, je crois que tu vas encore amener la vie. Je crois que tu vas encore renouveler ma foi. Je crois que je vais encore voir ta gloire. Alléluia. Alors, je voudrais simplement m'adresser à celui, celle, qui a besoin que sa foi soit comme renouvelée, ressourcée, restaurée dans le nom du Seigneur, qui puisse dire, mais moi, je veux encore avoir soif. Soif de voir la gloire du Seigneur. Si vous êtes ainsi, que vous voulez voir sa gloire et que vous voulez être restauré, est-ce que vous pouvez lever votre main en disant, voilà, j'ai besoin de voir la gloire du Seigneur. Voilà, il y a plusieurs qui lèvent leur main. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, vous êtes, voilà, je crois que c'est important. Amen. De pouvoir manifester cette foi. Amen. Seigneur Jésus, je veux t'apporter ces bien-aimés. Seigneur, tu vois la situation, tu vois les circonstances. Et peut-être, Seigneur, ont-ils eu, mes frères et sœurs, Seigneur, les yeux davantage fixés sur les circonstances qu'ils traversaient que plutôt que de les avoir sur l'état de leur âme. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, veulent dire, mais Seigneur, je veux avoir soif de toi. Je veux que mes regards soient tournés vers celui d'où viendra le secours. Je m'attends à toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, d'avoir, Seigneur, douté, de m'être laissé distraire. Mais Seigneur, maintenant, Seigneur, je veux regarder, je veux avoir soif de toi. Alléluia, tu entends cette voix qui vient du plus profond des cœurs. Et Seigneur mon Dieu, merci, merci, parce que si quelqu'un a soif, tu lui dis, eh bien qu'il boive. Et Seigneur, et toi tu donnes de cette eau, tu donnes, Seigneur, ta grâce, tu, Seigneur, tu réponds à la prière. Seigneur, à toi toute la gloire, bénis, fortifie, Seigneur, ton héritage, bénis ton peuple, que dans ces temps, ces jours, ces heures qui vont venir, ils vivent de grandes choses, Seigneur, par ta grâce, parce que tu es vivant, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Amen.